10% du marché français, le label interdit à un producteur de commercialiser une choucroute comme alsacienne si elle n'est pas produite selon des critères de qualité et d'origine géographique très précis.
Parce que vivre l'hôpital, c'est d'abord vivre. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a créé Plus de Vie pour apporter plus de vie aux personnes âgées hospitalisées.
Parler à quelqu'un d'autre que l'infirmière, recevoir sa famille ailleurs que dans sa chambre, ou tout simplement sortir. Quand on est âgé et à l'hôpital, la différence entre la vie et la survie tient souvent à des choses simples.
Pour plus de vie à l'hôpital,
donnons à plus de vie. Envoyez vos dons à plus de vie, 13 rue Scipion, 75 005 Paris, ou sur plusdevie.fr.
France Inter, la voix est libre.
15h04 sur France Inter, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Bravo Mermet. 17 octobre 61, ton travail depuis X années à payer. Bravo, félicitations, salut.
Bonjour, là-bas si j'y suis, c'est Saïd du Lot. Je voulais exprimer ma satisfaction et mon contentement d'avoir vu que François Hollande reconnaissait la responsabilité de la France dans le massacre du 17 octobre 1961. C'est un premier pas vers la réconciliation. J'attends maintenant avec impatience que la France reconnaisse sa responsabilité dans la colonisation d'Algérie et surtout dans la décolonisation qui s'est faite avec violence et cruauté. Bonne semaine à tous. Salut.
Oui, salut Mermet. J'ai entendu qu'il fallait battre sa coulpe pour les événements du 17 octobre 61. Je suis assez d'accord avec toi. Mais ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que le même jour, tes petits copains du FLN dont tu as été la groupie à l'époque, eh bien, ils battent leur coulpe aussi pour les massacres de Philippeville 55, d'Oran 62 et les massacres sur les Harkis en 62. Ça serait bien qu'on fasse un blot. T'es pas d'accord avec moi? Allez, salut mon petit gars.
Oui Daniel, salut, c'est Michel. Bah écoute, je suppose qu'aujourd'hui tu vas parler beaucoup de la reconnaissance par François Hollande de la répression donc à Paris. Et donc ça, je suis ravi. Moi, c'est une très 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 bonne chose, d'autant plus que je suis extrêmement ravi. Car je pense que ça va évidemment susciter au gouvernement algérien d'ouvrir lui-même ses archives concernant tout ce dossier aussi. Pas ce dossier particulièrement, mais tout, puisque je pense que maintenant, ils sont ravis, ils s'en félicitent, et donc, eh bien, ils vont élire eux-mêmes leur dossier. C'est parfait comme ça. Au moins, tout sera sur la table, tout sera clair, et voilà. Je suis ravi. Au revoir, Daniel. Je suppose que tu dois être ravi aussi.
Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ses faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Voilà, trois phrases du président de la République actuelle. Trois phrases qui étaient attendues depuis 51 années. Voilà la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 par un chef d'État français, c'est la première fois. Alors cette reconnaissance, évidemment, est un geste important pour les survivants d'abord de ces massacres, pour la mémoire de ceux qui furent abattus, torturés, noyés, pendus, massacrés de toutes sortes de façons au cours de cette soirée et de cette nuit. Geste important pour les survivants qui étaient dans cette manifestation, je le rappelle, manifestation pacifique de ces Algériens. On ne disait pas qu'ils étaient Algériens, on disait FMA, français musulmans d'Algérie, et qui venaient des bidonvilles de Nanterre et d'ailleurs de la région parisienne, et qui, un point qu'on oublie très souvent, étaient des ouvriers qui avaient été amenés là comme main d'œuvre dans les usines françaises. La police de Papon a abattu des Algériens qui étaient aussi des ouvriers. Un geste important évidemment pour leurs enfants, pour tous les Français issus de l'immigration algérienne qui ont longtemps ignoré leur propre histoire et ce massacre particulièrement, mais qui depuis quelques années étaient informés, sensibilisés et auxquels cette reconnaissance qu'ils réclamaient apporte un certain apaisement. Et puis, c'est un geste important aussi pour toutes celles et ceux qui se sont relayés pendant toutes ces années, n'ont pas cessé de lutter pour faire connaître cette histoire, pour qu'avance la vérité et donc la justice. Et je pense à un certain nombre d'entre eux, je pense aux photographes Élie Kagan, par exemple, je pense à Feu Mouloud Aounit du MRAP, je pense à Jean-Luc Enaudi, auteur de La bataille de Paris, qui a été un livre qui, en 91, a déclenché pas mal de choses, même l'essentiel de cette mémoire, par sa précision et sa qualité de travail d'historien. Je pense évidemment à Georges Mattei, à François Maspero, à Nicole Rhin, à Jacques Panigel, à Michel Lévin, à Marcel et Paulette Piéju, à Didier Daninx, à beaucoup d'autres, évidemment, qui ont tous lutté pour que cette mémoire avance et arrive aujourd'hui jusqu'à cette reconnaissance. Longtemps, c'est tous ces gens-là, et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer, ce serait trop long, se sont sentis bien seuls. C'est un combat très long. Souvent, ils ont été confrontés à la couardise des politiques et à la lâcheté, l'opportunisme des intellectuels et des médias, mais pas de tous. Il y a eu dans cette affaire des politiques courageux, des intellectuels courageux, des médias courageux. Pour ma part personnelle, j'avoue évidemment aussi mon soulagement, je l'ai eu l'occasion de le raconter, j'étais un des témoins de ces massacres du 17 octobre 1961 sur le pont Saint-Michel à Paris. Vous savez que là-bas, si j'y suis, a consacré plusieurs émissions à ce sujet. La première série date de septembre, je crois, ou octobre 1991, si j'ai bonne mémoire. Nous sommes revenus souvent sur ce sujet et vous pouvez réécouter ces émissions très facilement sur le site là-bas.org, là-bas.org. Alors, ça montre que voilà, on ne perd pas toujours. C'est aussi un encouragement pour tous ceux qui se battent pour d'autres causes aujourd'hui et qui parfois se sentent bien seuls, bien paumés, bien marginalisés. Et c'est aussi évidemment une reconnaissance pour les anticolonialistes de ces époques-là, pour les insoumis, les réfractaires, les déserteurs, les objecteurs opposés à la pacification, ce qu'on appelait la pacification, qui était opposée aussi évidemment au camp d'internement et à la torture. Alors, j'ai voulu appeler quelqu'un qui se bat depuis des années et des années, parmi d'autres, bien sûr, sur cette cause, sur cette histoire. C'est Mehdi Lalaoui, qui est le co-auteur d'un film qui s'appelle « La mémoire du fleuve ». Le fleuve, évidemment, c'est la Seine, et l'animateur de l'association Au nom de la mémoire, Mehdi Lalaoui.
Hier, c'était un grand jour. On était tous réunis dans un café quand on a appris la déclaration du président François Hollande. Et là, il y a eu une clameur. Tous les responsables associatifs se sont levés. Et le serveur est venu en disant « Mais qui a gagné ?» pensant que c'était un match de foot. Ah. Et moi, j'ai dit « C'est la justice qui a gagné. » C'est un moment important parce que pendant toutes ces années, on a bataillé pour la justice et la vérité. Et enfin, avec la déclaration de François Hollande, c'est un premier pas qui est fait et on va pas bouder notre plaisir. Je crois que ça va apaiser les choses. Vous savez, vous êtes souvent au pont Saint-Michel. Les vieux, 51 ans plus tard, ils pleuraient parce que les mots sont aussi réparateurs, quoi. Cette reconnaissance, on la doit grâce à tous les hommes et les femmes du mouvement associatif qui, en France, se sont mobilisés peu à peu pendant des années et des années. Qu'on fait monter cette exigence, c'est qu'il n'a pas lâché, quoi, hein, qu'il n'a pas lâché sur cette revendication qui n'était pas la lune, parce que cette revendication, c'est la vérité et la justice seulement, quoi.
Vous dites que c'est un premier pas, ça veut dire quels sont les autres pas encore
à accomplir ? C'est un premier pas, parce que il faut acter maintenant l'ouverture de toutes les archives. L'autre pas, c'est enseigner les guerres coloniales, la guerre d'Algérie, avec tous ces épisodes douloureux dans les manuels scolaires. Ça a commencé, hein. On parle de Sétif dans les manuels scolaires. Dans quelques manuels scolaires, on aborde le 17 octobre 61. Mais c'est peu, quoi. Et il faut que l'État donne une impulsion, parce que l'enjeu de la mémoire, c'est demain, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Il faut que l'État donne une impulsion pour que il y ait vraiment des messages pour renouer avec les Algériens, renouer avec leurs descendants.
Mehdi Laalaoui, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, évidemment. Vous vous êtes heureux, c'est un épisode important dans une longue lutte, mais certains ont manifesté leur opposition à la déclaration de Hollande en disant « Ah, mais ça va diviser les Français, ah, mais c'est une accusation de l'ordre républicain. » Au bout de cette accusation, il y a le Premier ministre de l'époque, et qui était Michel Debré. Et puis, au-dessus de Michel Debré, il y a une attaque contre le président de la République en 1961, c'est-à-dire Charles de Gaulle.
Bien sûr, mais ce sont les nostalgiques de la colonisation. Ce sont les mêmes qui ont voté en 2005 la loi du 23 février, dont l'article 4 incitait les enseignants à valoriser le rôle positif de la colonisation, notamment en Afrique du Nord, les Jacob, les Copé et autres. Ce qui les gêne, c'est qu'on touche à leur icône, qui est Michel Debré et le général de Gaulle. Mais ils ont été complices. Papon et la police parisienne n'ont pas agi seuls. Alors moi, je pense que la vérité, elle divise pas la vérité. La vérité historique, elle unit. Voilà. Ce sont des faits qui ont été avérés par les historiens. Tous les jours, on a de nouveaux témoignages sur cette tragédie du 17 octobre. Parce que il faut pas que dans la République, certains aient droit à la mémoire et d'autres soient les éternels mis de côté. Et même si c'est des choses douloureuses, eh bien c'est ça qui va nous permettre d'avancer ensemble.
Merci, Mehdi Laalaoui.
Merci, Daniel, pour votre rôle dans la connaissance de cet événement. Parce que sans vous, on n'aurait pas réussi à faire d'aussi grandes choses. Vraiment, merci.
Merci, merci, Mehdi. Salut. Avancer ensemble, dit Mehdi Laalaoui, voilà, on célèbre, on a raison, il faut absolument célébrer les moments, des moments comme ça, des moments où on gagne, enfin quelque chose est atteint, voilà, il y a un bout de vérité qui émerge, un bout de justice aussi qui émerge, et ça, faut pas oublier ces moments-là, il faut les célébrer et les fêter. Et je pense peut-être que dans 50 ans, pour ceux qui seront encore de ce monde et sur cette planète, on célébrera peut-être comme ça, un animateur de radio qui appellera un militant associé pour dire ça y est, le racisme contre les Roms a disparu. Il faudra attendre au moins ça. Il faudra attendre au moins une bonne cinquantaine d'années. Vous allez en avoir la preuve à travers les messages, l'émission d'aujourd'hui sur les Roms. Je ne suis pas raciste, mais les Roms. On va voir que le racisme en France se déplace, hélas, seulement.
Bonjour, c'est Rémi de Bar-le-Duc. Je ne suis pas raciste, mais les Roms... Hier, à Aix-en-Provence, un institut universitaire accueillait Madame Le Pen, Marine Le Pen, pour évoquer les 40 ans d'histoire de son parti. Je me demande juste à quel titre elle était invitée. Est-ce que c'est une historienne, une ethnologue de l'extrême droite en Europe, ou bien est-ce seulement parce qu'elle est membre de la famille royale? Mais oui, parce que dans ce rassemblement raciste, on se passe le flambeau comme dans des pays modèles comme le Gabon, le Maroc, la Corée du Nord. L'Institut avait en plus choisi pour cette causerie la jolie date du 17 octobre, certainement un hasard. En France, ce jour ne sera jamais que le funeste anniversaire du massacre des Algériens à Paris en 61.
Salut Mermet, Jean-Paul à Mulhouse. Sauf le respect que je te dois, que je te voue, que je vois tes émissions, que j'écoute depuis plus de 20 ans maintenant, je crois que tu déconnes grave en essayant de nous faire croire que trois Roms insérés à lieu sain peuvent laisser imaginer que leur population est absorbable et insérable par le travail. Utiliser une exception pour modifier la réalité, ça frise l'intox. Tout le monde le sait, et tu le sais également, qu'ils ne sont pas là pour bosser. Voilà. Pour le reste, rien à dire. Tes émissions sont géniales. Salut.
Bonjour Benjamin Saint-Ouen. Je vous appelle, moi je vis à Saint-Ouen, donc on a les dealers, on a les Roms. Franchement, c'est pas être raciste que de dire qu'ils sont insupportables. Ils font faire la manche aux enfants, ils vident les poubelles pour eux, les renversent, ne ramassent rien. Ils n'en ont rien à faire. Ils font la manche chez les médecins. Ils font la manche dans le métro avec des enfants de 2 ans. C'est insupportable. C'est une situation qui est insupportable. Ils ont un contrat d'intégration qu'ils n'ont pas respecté à Saint-Ouen. À un moment, il ne faut pas exagérer. L'intégration, ça passe pas par... On prend tout et on vit en parasite. Moi, je regrette. La vérité, c'est que c'est juste insupportable de vivre avec ces gens-là. Ces gens-là n'ont aucun savoir-vivre, aucune envie de s'intégrer. Ils veulent juste prendre ce qu'il y a en considérant que la France est un pays de cocagne. Alors, je vais vous dire, vous vivez pas avec eux. Quand on ne vit pas avec eux, on les trouve formidables. Prenez-les chez vous, puisque vous les trouvez bien.
Oui, bonjour Daniel Mermet, bonjour à tous les AMG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, il est 15h07. en ce 17 octobre. Je viens d'entendre le début de l'émission là-bas, si j'y suis. J'ai décroché immédiatement mon téléphone parce que je suis choqué, je suis outré de ce que je viens d'entendre de la part de la Stéphanoise qui disait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, la France, tatati, tatata. Mais attendez, vous avez entendu son accent ? Mais je pense que ses ancêtres ou elle-même sont venus en France pour fuir une certaine misère. Mais c'est une honte. Moi-même, je m'appelle Nasser. Je suis d'origine tunisienne, français. Mais jamais je pourrais penser à dire quelque chose comme ça. On est tous humains. Qu'on soit d'origine maghrébine, africaine. Oh là là, à Saint-Étienne, bientôt ça va être l'Afrique. Mais qu'on soit d'origine africaine, européenne, on est tous des êtres humains. Ou américaine, ou sud-américaine, on est tous des êtres humains. Un Rom, ça reste un être humain avant tout. S'il a faim, si ses enfants ont faim, comment il fait pour nourrir sa famille? Mais là, bon, voilà, c'est surtout pour cette dame qui n'a même pas daigné donner son prénom et son identité à l'antenne. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo.
Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms. En aucun cas.
D'abord. Intégration, c'est une famille qui vit au milieu de la population locale. Et ce n'est pas 50 familles qui vivent en bordure de la population locale.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas.
Parce que ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils continuent à garder leur langue, leur culture, l'éducation de leurs enfants, leur mode de vie.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on prie.
Ces gens-là ont une culture du feu. Ils font brûler. Ils font brûler énormément de choses.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche.
Avec l'arrivée de l'électricité, les paraboles s'installaient et tous ces gens-là regardent les chaînes roumaines.
Pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Charlotte Perry. Je ne suis pas raciste, mais les Roms.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, ben là, je me trouve à Saint-Denis, dans le 93. Et là, je me dirige vers la basilique de Saint-Denis, dans le centre de la ville. Et je suis venue ici parce qu'on s'intéresse aux communes qui cherchent des solutions pour permettre aux Roms de sortir des conditions absolument désastreuses dans lesquelles une partie d'entre eux vivent. Et alors, pour parler de ces solutions, eh ben on est venu ici, en Seine-Saint-Denis, parce que c'est le département qui concentre la plus grande partie de la population Rom précaire de France, puisqu'environ 3000 Roms vivent ici, sur les 5 à 6000 qui vivent en Île-de-France. Et bien qu'ici, comme ailleurs, les expulsions se poursuivent, eh bien, la Seine-Saint-Denis est quand même un des départements pionniers en matière de recherche d'alternatives aux expulsions. Et ici, à Saint-Denis, eh bien, la ville est en train de travailler sur un projet tout à fait novateur d'autoconstruction. Alors, on va aller rejoindre Seymir Millet, qui est président de l'association La Voix des Roms, dans un café qui s'appelle le Khedive, juste en face de la basilique. Et puis, on va se dépêcher parce qu'aujourd'hui, il pleut. Et ça semble pas vouloir s'arrêter.
Samir Millet, je suis le président de l'association La Voix des Roms.
On parle de 15 000 Roms en France.
Ah non, on est très loin du compte. En France, il y a au moins un demi-million de Roms, sauf qu'on parle que de ceux qui sont les plus visibles et qu'on a rendus visibles parce qu'on les rejette de partout. Moi et les 97% de Roms qui ne sont pas en bidonville en France, nous, on n'est pas vus comme Roms. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on est en face de la basilique de Saint-Denis, et c'est ici que les premiers Roms sont arrivés, tenez-vous bien, en 1427, au mois d'août. c'était l'arrivée, la première arrivée aux portes de Paris, qui à l'époque était sous domination anglaise. Ensuite, il y a eu des différentes vagues depuis le XVe siècle, des Roms qui venaient des pays de l'Est, et quand je dis des pays de l'Est, j'inclus aussi l'Allemagne, par exemple. Ce n'est pas les pays de l'Est au sens politique du terme, mais vraiment au sens géographique. Voilà, avec les dernières arrivées qui sont celles des années 90. On a eu, par exemple, des réfugiés politiques, des Roms d'ex-Yougoslavie qui fuyaient les conflits, où ils étaient pris en tenaille entre les belligérants. Mais c'est une population dont on ne parle pas, et pour cause, ils se sont vus reconnaître le statut de réfugiés politiques, et donc ils mènent une vie tout à fait normale en France aujourd'hui. Et ça représente, au niveau français, environ 60 à 70 000 personnes. Rien que cette vague-là, donc les Roms d'ex-Yougoslavie qui fuyaient les conflits. Et dans la même période, il y a eu aussi les Roms roumains et bulgares qui venaient avec leurs compatriotes non-Roms. Et puisque eux, ils venaient de pays dits sûrs, et donc on ne leur accordait pas le statut de réfugiés, et de l'autre côté, on ne leur reconnaît toujours pas le droit de travailler librement en France, ben, ils survivent dans des conditions qu'on connaît, dans des squats, dans des terrains, dans des lieux où ils construisent eux-mêmes des cabanes, et qu'on expulse depuis un certain nombre d'années déjà, et dont on parle tout le temps.
Donc là, on va partir de la basilique Saint-Denis, où on est. On va aller se rendre un petit peu plus loin, vers la Courneuve.
Oui, on va voir sur place ce que nous essayons de faire comme expérience positive avec les Roms qui étaient expulsés du terrain du Hanoul en juillet 2010 et qui sont actuellement sur un terrain mis à disposition par l'État et qui vivent dans des logements qu'ils ont aménagés en partie eux-mêmes. À la base, ce sont des algéco, mais il y a aussi des constructions en bois.
Ah, vous avez remarqué, hein, depuis 2-3 jours, à chaque fois que je prends le micro, je me mets à tousser, je perds ma voix. Et vous demandez pourquoi, et dis donc, Daniel Mermet, il commence à... Mais non, c'est que c'est les Tchétchènes chez moi qui dorment la fenêtre ouverte, parce que j'ai pris des Tchétchènes chez moi. Et ils ont besoin d'être au frais, alors ils dorment la fenêtre ouverte, donc j'attrape la crève. Il y a aussi la fumée des feux de bois que font les Maliens, que j'ai pris des Maliens aussi chez moi, et pour faire cuire, c'est des Maliens du Nord, vous voyez, du Mali, je les ai donc accueillis, bien sûr, et ils font cuire leurs trucs sur des feux de bois, ils ont fait du feu de bois avec mon parquet, donc voilà, donc ça fait de la fumée, ça me monte un petit peu à la gorge. Il y a aussi les salafistes qui laissent toujours des poils de barbe un peu partout. Ça me rentre dans la gorge aussi. C'est, voilà pourquoi. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein à la maison. Je les prends à chaque fois, contrairement à ce que vous croyez. À chaque fois, on me donne le conseil. Si vous les aimez tant, prenez-les chez vous. Mais c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans que je fais cette émission. Vous n'êtes pas venu chez moi. Vous n'avez pas vu comment c'est chez moi. Eh bien, c'est comme ça. Et voilà pourquoi il m'arrive d'être un peu enroué lorsque je prends l'antenne. Alors, il y a aussi la question du démantèlement. Je reviens un petit peu sur la question du démantèlement. Je le dis et je le répète, nous sommes pour le démantèlement des camps de Roms en France, absolument partout en France, à condition qu'il y ait des solutions de relogement, bien évidemment. Et en disant cela, je ne fais que répéter ce qu'a dit le président de la République. Vous avez vu qu'il a la cote dans la main, si j'y suis aujourd'hui. Le président de la République, ça va peut-être pas durer, mais là, il a la cote. Donc, je ne fais que répéter. Vous voyez, au début de l'émission, j'ai répété ce qu'il a dit. Là, je répète à nouveau ce qu'il a dit. Et pour ce qui concerne la Sistana, tout le monde nous dit, mais ils sont assistés, etc. Eh bien, nous sommes contre aussi. Je suis contre, en tout cas, la Sistana. Je suis pour que les gens trouvent un boulot, ou trouvent un travail. J'ai essayé d'expliquer hier que je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que je ne suis pas du tout le seul. Il y a quelques obstacles qui persistent, mais qui ne sont pas des obstacles absolument insurmontables. L'obstacle est que l'obligation est faite à l'employeur de payer une taxe particulière, je crois autour de 800 euros, s'il veut employer un Rom. Eh bien, ce n'est pas pas non plus insurmontable. Et puis alors, il y a aussi ceci, c'est que quand on dit Rome, on dit n'importe quoi, on dit une approximation. Je le dis et je le répète, et il faut le rappeler quand même, il n'y a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Néanmoins, nous sommes avec un Rome qui s'appelle Saïmir Millet, que vous avez entendu à l'instant, et c'est assez curieux, je le connais depuis des années, et non, il ne vit pas chez moi. Mais il est... Charlotte Perry l'a rencontré. Il est tout à fait propre. Et il est, elle l'a bien surveillé, sa Rome, elle a bien regardé, etc. Non. Il est très propre, il est très convenable. Il mange pas de ses enfants, il ne viole pas les jeunes filles. Il n'est pas la tête d'un réseau mafieux. Il est pas. Voilà, c'est l'air d'être un garçon tout à fait correct. Voilà pourquoi nous allons passer cette heure, entre autres, avec lui sur ces questions de Rome, sur la recherche d'alternatives à ce sujet qui est monté terriblement, horriblement en épingle. On l'a dit et répété à des fins de marketing politique. C'est jusqu'à 16h, c'est la page. Si j'y suis, je ne suis pas raciste, mais les Roms.
Cruțe colorate trec țiganii, o țigancă în părul ei ascunde banii, atașate într-un colț și dă cu ghiocul să ghicească unei fete mari norocul. Un țigan cânta frumos dintre rovioară, când peste căruțe încet se lasă seară. Trec țiganii, trec, se duc și petrec, trec. Țiganii nu se mai opresc, dar ei se iubesc. Se aude o vioară, se aude un arcuș, se aude vocea dulce a unui țigănuș.
Donc là, Saïmir, on vient de descendre du tram. La station s'appelle Cosmonaute.
La station s'appelle Cosmonaute et on est à une centaine de mètres, une petite centaine de mètres du terrain provisoire où sont logés les Roms du Hanoul. Le Hanoul, c'était un quartier de Saint-Denis, un quartier informel qui avait été construit par des Roms roumains depuis 2000, et qui a été expulsé en 2010. Actuellement, il y a environ 250 personnes. Personne, pas famille.
Ouais. Je passe à la radio. On est devant le circuit des cosmonautes. Tu vas raconter quoi?
On parle du camp qui est installé ici, là.
Mais non, c'est pas normal. Parce qu'il y a des gens qui sont pas payés à la mairie, ils attendent 2 mois, alors qu'eux, ils ont donné direct, c'est pas normal. Hein.
Non, ils n'ont pas eu direct, hein. Ils étaient dehors pendant très longtemps.
Mais c'est une expression, monsieur. Au revoir.
Finalement, ce n'est pas faux. Il y a d'autres personnes sans logement qui campent à droite et à gauche. Mais il ne faut pas opposer les situations. Au contraire, il faut qu'on s'inspire des solutions proposées par les uns et les autres. Il faut maintenant trouver d'autres solutions que celles proposées. Et de ce point de vue, ici, on fait quelque chose qui n'est pas spécifiquement Rome. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ce genre d'initiative ne se réplique pas ailleurs pour d'autres populations dans le besoin.
Donc là, on se trouve à l'angle de la rue Voltaire. On n'est pas loin de la Courneuve.
Oui, la Courneuve, c'est juste à notre droite. Ici, c'est la limite entre les deux villes. Il y a mon téléphone qui sonne, je suppose que c'est Julien.
Alors Julien, c'est Julien Belair, c'est ça?
C'est Julien Belair, c'est l'architecte qui travaille avec les familles dans cette installation provisoire et aussi dans le projet pérenne par la suite.
Bon, on va parler de tout ça à l'abri, parce que là, il pleut.
On est arrivé et on voit Julien.
Ça va? C'est toi qui as appelé là?
Bonjour.
Moi, je suis Julien Beller, je suis l'architecte ayant travaillé pour la ville et l'agglomération sur la maîtrise d'œuvre de ce terrain. Ici, quand on entre dans le terrain, on est entouré des espaces communs. Donc c'est important, d'abord pour dire qu'on est dans un quartier, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer ici.
Donc quand on rentre, il y a d'abord des grilles.
Donc il y a les grilles, il y a le portail qui permet à des véhicules de secours d'entrer, mais qui sinon est toujours fermé parce que les gens n'accèdent pas sur le site avec leur voiture. Et ensuite, arrive ici sur une petite place du village, ce serait un petit peu exagéré de le dire, mais en tout cas sur un espace semi-public, donc la salle commune, les sanitaires, la régie. À partir de cette petite place d'entrée, on a trois rues.
Donc là, il y a des cordes avec le linge qui pendent.
Bien sûr, le côté autogéré du quartier fait que bah, y a du linge qui sort, il y a des jouets qui sont mis dehors, il y a un frigo qui est plutôt à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. Il va y avoir des poêles à bois qui vont être montées. Voilà, donc c'est aussi ce côté vivant de la ville et de chacun trouve la meilleure solution pour s'aménager. Là, au bout de cette allée, on a un talus qui plonge sur l'autoroute. Donc il faut quand même savoir que le terrain sur lequel on est situé, il est bordé d'un côté par l'autoroute, c'est un terrain triangulaire, de l'autre côté par la voie de tram et du troisième côté par une petite rue de l'autre côté de laquelle il y a des pavillons. Donc bien sûr, c'est la difficulté principale, elle était avec les habitants des pavillons. Moi, en tant qu'architecte, j'agis sur le logement. J'essaye avec les associations, avec les habitants, de trouver des solutions justes, moins chères à la collectivité. Il faut savoir qu'ici, c'est un projet qui nous a coûté moins de 400 000 euros. On est un prix du logement défiant toute concurrence. On est à largement moins de 5 000 euros, ce qu'on ne sait faire nulle part.
5 000 euros pour le logement.
5 000 euros un logement. Donc on sait faire aujourd'hui, quand on voit aussi tout le gâchis de matériaux qui est fait autour de nous, au sortir d'une exposition, à la fin du chantier. La difficulté aujourd'hui, c'est quand on dit il faut loger des gens, eh ben on considère qu'il faut du droit commun. Et quand je dis droit commun, ben j'entends du logement aux normes, acoustique, thermique, etc. Et du logement aux normes actuellement, on ne sait pas le sortir à moins de 1000 euros du mètre carré. Il faut continuer à faire du logement aux normes pour le plus grand nombre possible. Mais aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre dit qu'on a 5 millions de personnes mal logées. Donc aujourd'hui, moi, je me bats pour essayer de trouver des solutions intermédiaires. Il y a aujourd'hui 250 personnes, 56 familles. Donc on est un petit peu en train, avec ces familles, de passer tous les caps entre le plus informel et le plus précaire et le droit commun.
Bonjour. Vous vous appelez comment?
Georges Picou. Georges Picou. Oui. Il est désastre.
Qu'est-ce qui se passe en fait?
Donc ils ont des punaises là qui ont apparu dans les maisons depuis 15 jours, 3 semaines. On ne sait pas d'où elles viennent et apparemment elles sont en train de rentrer dans les panneaux de bois. Et du coup, on dit bah, il faut mettre de l'insecticide. Il y a des insecticides type peinture qui marchent très bien pour ces bestioles. Donc là, le monsieur, il est en train de peindre l'intérieur. Donc je pense que ça va un petit peu aider, mais il te faut l'insecticide.
Là, on rentre dans la maison du monsieur. Bonjour madame, vous êtes en train de peindre?
Oui, on va de mettre une peinture.
Ce que nous faisons, les mains.
Băiatul ăla a ajuns la spital.
Am băiatul mare, a ajuns la spital. Crede-mă că dacă îl vedeți, uite, fata, uite, mai are, uite, pe frunte. Ei se umflă toată frunte, bă, omule, măi. E dezastru. E dezastru. Ce n-am văzut vreodată, de când m-a făcut mama din pizda așa ceva n-am văzut.
Bah, c'est horrible, il faut qu'on trouve vite une solution parce qu'autrement on ferme et puis on reste dehors parce que c'est plus vivable. Quoi.
Les punaises?
Les punaises, ouais.
Là, les enfants, ils ont été piqués, ils ont parlé d'hôpital aussi, non?
Adulte, il est allé à l'hôpital parce qu'il y avait, des mangeaisons partout.
Et ce fait palul ăsta, de unde l-au preparat, ce i-a băgat în el, că face ploșniță, băi, omule, băi. Ce ferească Dumnezeu, bate-mă în... Dacă iese din el, tu nu-ți dai seama pe unde prinde ei.
Il y a des trucs qui sortent, se sont attaqués, vraiment.
Flori, elle a fait le truc à côté, là, et Marcel, et ça a duré 2 jours. Donc ça montre bien qu'il faut faire tout en même temps, parce que sinon, elles reviennent. Tu vois, tu fais, ça dure 2 jours, et après, celles du voisin, elles reviennent chez toi. Donc il faut faire tout le quartier.
Mais oui.
Et là, en fait, sur les maisons, elles sont toutes construites comme ça. Il y a plusieurs pièces. Il y a 3 pièces, là.
Ouais, donc un Algeco, en fait, ça fait 3 mètres de large par 9 mètres de long. En général, tu as une première pièce qui est à l'entrée, qui est la pièce de vie, qui ici doit faire 7-8 mètres carrés, dans laquelle tu as l'espace pour préparer à manger, tu as une télé s'il y en a une. Et après, dans les 2 espaces qui sont derrière, c'est des chambres. Souvent, la pièce pour les enfants et après pour les adultes. Donc là, ici, on peut voir que c'est une maison dans laquelle il y a au moins 6 personnes qui dorment, parce que même dans le premier espace, il y a quelque chose qui sert de canapé en journée et de lit en nuit.
Madame Domingos, présidente de l'association collective des riverains, donc association que nous avons créée dans le cadre de problèmes d'implantation d'un camp de Rom dans notre quartier. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs riverains à avoir adhéré, et un peu plus d'une centaine.
Ah non, je ne donne pas mon nom, j'habite dans la rue Villa-Montjardin.
Qui se trouve donc juste à côté
juste
de nous.
Ici, moi aussi.
Dans la même, j'habite ici, mais je ne donne pas mon nom.
Bonjour, moi c'est Madame Morera, donc je fais partie aussi de l'association et j'habite dans le quartier.
Et vous, monsieur ?
Je suis aussi un habitant du quartier et je suis qui plus est conseiller municipal d'opposition à Saint-Denis. La Saint-Denis est une ville dirigée par le PCF et je suis plutôt côté UMP.
Donc ici on se trouve, c'est dans le quartier des cosmonautes, c'est ça ? À Saint-Denis, à la frontière entre Saint-Denis et la Courneuve.
Tout à fait, mais la cité des cosmonautes fait partie de notre association au niveau du quartier. Et puis tout le reste du quartier, ce sont des secteurs pavillonnaires, principalement avec des propriétaires.
Vous êtes propriétaire ?
Tout à fait, tout à fait.
Tous, oui.
Donc vous habitez cette rue-là ?
Petite rue, voilà. Oui.
D'accord, donc c'est que en fait des petits pavillons qui sont face à une petite rue très jolie.
Tranquille, jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à l'implantation du camp, installé par la mairie.
Il y a 10 ans, c'était un projet. Et finalement, le projet, maintenant, c'est plus un projet, c'est installé. Hein.
On s'est aperçu un jour que des Algeco étaient montés sur ce terrain et on n'était au courant de rien.
Et alors, enfin, vous, à quoi vous êtes opposé précisément ?
Je ne sais pas si vous avez vu dans quelles conditions ils vivent, mais ce sont des baraquements immondes. Hein. C'est sale. Si vous voyez les trottoirs, l'eau des toilettes s'évacue sur les trottoirs. Nous, dans nos jardins, on a plein de rongeurs maintenant. On est envahis de mouches.
Sûr,
ah ben oui, nous, on est juste là. On est juste en face. Hein. On a des mouches. Ils viennent faire leurs besoins devant nos maisons, dans les rues. Ils viennent se laver les pieds dans les caniveaux.
Il y a une dévalorisation de nos biens, puisque finalement, automatiquement, est-ce que vous allez acheter un pavillon ou derrière, vous avez un campement de Rom, même s'il est légal, c'est sale. Personne ne va acheter. Il y a une maison qui est en vente, elle ne trouve pas acquéreur.
On a tous plus ou moins été tous cambriolés dans le quartier, je dirais, à plus de 70%. Moi-même, j'ai été cambriolée en pleine journée. En ayant une personne à l'étage, donc j'ai cru qu'il m'avait égorgé mon enfant.
Et là, ben, finalement, on se sent en insécurité. Et pas par rapport à des cités, pas du tout. Par rapport à cette population qui s'en fiche complètement de nous. Donc c'est vrai qu'on passe pour les méchants. Vous-même, vous êtes en train sûrement de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, puisque par moments, on voit votre visage qui blanchit, qui prend des couleurs. Donc vous-même, vous avez une réaction comme ça, parce que c'est vrai qu'on passe pour des méchants, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'il faut le vivre au quotidien.
Voilà, vous voyez, les gens ne peuvent plus passer sur le trottoir public parce que les toilettes débordent et donc les gens sont obligés de marcher sur la route qui est très fréquentée.
Alors qu'est-ce qui se passe? Elles sont bouchées ou il y a un problème?
Ah mais je ne sais pas, je ne suis pas gestionnaire du camp. Voilà, ça coule de partout.
Donc là on longe, c'est la route de la Courneuve, c'est ça?
On est route de la Courneuve, on longe le camp. Derrière cette palissade, il y a le camp qui est organisé. Et on va voir ce qui se passe à l'arrière. Alors vous voyez les petites cheminées là, ça brûle. Derrière ces petits bâtiments en bois, il y a des poêles à bois et on fait brûler des choses toute la journée. Voilà, vous entendez les bruits? On démonte, on... Et ça, c'est jusqu'à 22h, 23h. Là, ça y est, il y a une odeur de cuisine. Hein.
Ouais, mais ça, c'est...
Ça, c'est plutôt sympa.
Comme si on passait devant quelqu'un,
oui,
et qu'il fait la cuisine.
Sympa. Oui, non, c'est plutôt sympa.
Vous, madame, vous êtes arrivée un petit peu plus tard, du coup, vous n'êtes pas présentée. Vous habitez...
Je suis une habitante de Villa Monjardin. J'habite là-bas depuis 25 ans. Là, ici, c'est
là, on a traversé la route
de l'ancien campement que la mairie ne nettoie pas parce que ça appartient à l'État.
Là, il y a vos maisons.
C'est Villa Monjardin, ici. Et, ouais. tout le long, regardez les saletés. Et la mairie ne nettoie rien.
Les rats se baladent chez nous. Oui. On ne peut rien laisser dans la cour. On est obligé de tout couvrir. Elle passe devant vos pieds et n'ont pas peur. Hein. Une fois, j'ai tapé par la fenêtre comme ça pour la faire peur. Elle a ouvert la bouche. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de leur donner à manger comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit à mon fils, non, ça, c'est un rat d'adoption, quelque chose. C'est pas normal que c'est un... Mais non, c'est comme ça, je les ai vus dans le... Ils se baladent dans la cité, partout.
Et avant qu'il y ait le campement, comme ça, il n'y avait pas de rat? Non.
Jamais. J'ai laissé les linges dans ma cour. J'ai laissé tout. Jamais.
Et maintenant, vous ne laissez plus le linge?
Non, c'est pas possible. De toute façon, rien. On peut laisser. En plus, on ramasse leurs crottes alors tout le temps. J'en ai marre, moi.
Puis les odeurs avec tout ce qui brûle, des pneus ou je ne sais pas ce que c'est. Mais tous les soirs, on a des odeurs. Exactement, on ne peut pas ouvrir les fenêtres.
Et comme ils brûlent aussi, vous savez, les palettes où il y a des produits toxiques dedans. Donc là, on a toutes les émanations de ces produits-là. Donc on ne peut pas ouvrir nos fenêtres. Donc bon, il y a un moment, vous voyez pourquoi on arrive à être excédé de ce genre de situation. Il ne faut pas nous regarder d'une façon où vous pensez que nous sommes vraiment mais des moins que rien. Pas du tout. On espère que ces enfants s'insèrent à une vie normale, bien sûr. Mais aujourd'hui, les parents ne le souhaitent pas, eux, de vivre comme ça. Eux, ils continuent, ce sont des nomades, c'est leur façon de vivre. Donc on les met dans des ghettos. Parce que là, c'est un ghetto, je suis désolée. C'est un ghetto, il faut être honnête.
À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes. Ils se ressemblent tous.
ORTF.
Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi.
Janvier 1963.
Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Une seule fontaine pour toute la triste agglomération. C'est le rendez-vous des enfants. La corvée d'eau remplace souvent l'école. On vit entre soi. Des commerçants ont ici leurs éventaires à la mesure et à l'image de l'habitat. Et l'heure du marché ressemble à toutes les heures de marché, mais on est dans un autre univers. Non l'univers de la misère, car la plupart de ces hommes ont un emploi, mais un univers de hasard, de passage, insoupçonnable et souvent insoupçonné. Comment résoudre le problème? Continuellement, méthodiquement, les constructions nouvelles grignotent les bidonvilles. La construction s'efforce de faire face au flux des nouveaux venus, mais il ne suffit pas de remplacer un bidonville s'il doit en être un autre un peu plus loin.
Voilà une archive de 1963. À l'époque, on s'est mis à construire pour résorber les bidonvilles. Et ceux de la région parisienne, notamment celui de Nanterre, ne furent résorbés qu'au début des années 70. Actuellement, création, recréation, retour des bidonvilles un peu partout en France, qui ne sont pas seulement le fait de ces Européens que sont les Roms, mais d'une inégalité, de tous les désastres sociaux que vous connaissez, de la désindustrialisation, etc., etc. Et les Roms font partie de ce grand processus de destruction. C'est pas un petit épiphénomène comme ça, qui évidemment n'a rien de l'ordre de la race ni de la culture, mais il y a une tendance qu'on entend là, qui se donne à entendre, d'essentialisation, de naturalisation, et pour tout dire, de véritables propos racistes, mais qui sont effectivement, qui viennent de la part de braves gens, de gens tout à fait sympathiques, gentils comme tout, qui n'ont pas du tout envie de passer pour des méchants, mais qui passent quand même du moment où il y a une véritable nuisance, où ça les gêne et on les comprend tout à fait. On fait exactement la même chose quand on a un voisin qui fait trop de bruit ou qui fait cuire des trucs qui puent, on lui dit, ou bien éventuellement, s'il s'entête, on appelle la police. Tout le monde fait ça. Seulement, il y a un moment où il y a cette nuisance, il y a cette gêne, il y a la justice, il y a la loi qui est là pour intervenir, et puis il y a le moment où on essentialise, c'est-à-dire qu'on dit « ils sont tous comme ça, ils font tous ceci ou cela », et là, on tourne vers ce qui, voilà, ce qu'il faut bien appeler le racisme, qu'on le veuille ou non.
Si vous en avez marre
Complètement, ça peut plus durer, ça va pas durer longtemps comme ça. C'est plus Saint-Denis, si ça continue comme ça, on va payer la taxe foncière à la Caisse des dépôts. Hein. Vous savez, madame, ça fait plus de 40 ans qu'on est là, on sait de quoi on parle, la délinquance, il y en a toujours eu, non, mais là, c'est autre chose. Hein. Ça a dépassé la limite, là. Alors si c'est à nous, les riverains, de faire justice soi-même, c'est malheureux, mais on va y arriver. Hein. La vérité, c'est plus tenable. Pourquoi on va déménager, nous, à cause d'eux? Moi, je connais tous les enfants là, de la cité des cosmonautes et de la cité des 4000. J'ai grandi entre ces deux cités-là. J'ai bien peur, hein. J'ai bien peur que ça va se finir dans l'agressivité. Alors là, madame, ça sent complètement mauvais. Hein. Le maire, il nous met des gens comme ça à deux portes de chez nous. J'ai eu des visiteurs chez moi dans le jardin comme ça. Ça ne peut plus supporter comme ça. Alors si c'est à nous de les enlever, on va les enlever. On va les enlever et on a la capacité, on a les moyens de les enlever. On n'a pas fini de payer, madame, ici.
Votre maison.
Et comment on fait avec notre estimation? On rentre avec une estimation, on sort avec une autre estimation. Ça a perdu de la valeur, madame. Maintenant, les gens, ils viennent ici, c'est comme s'ils ont l'impression qu'ils viennent aux 4000. On n'est pas obligé de vivre avec ces animaux-là. On n'est pas obligé. Le maire nous a dit, vous inquiétez pas, le maire. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera rien. Mais là, ils demandent des cahiers. Ils vont tous aller à l'école, les gamins. Ils demandent des cahiers, ils demandent des fournitures de classe, quoi que ce soit. Les gens, ils n'y arrivent pas avec leurs propres gamins, madame. Les gens, ils n'y arrivent pas avec leurs propres gamins. C'est vraiment pas sérieux ce qu'il nous fait, le maire, là. On a voté pour lui, en plus. Bah oui, madame, c'est vraiment pas sérieux.
Mais vous pensez pas que ça peut se passer comme dans les années 60, où il y avait des Algériens, des Espagnols dans les...
Je voudrais bien, la vérité, hein, mais je pense pas, la vérité.
Pourquoi ?
Parce qu'ils veulent pas, eux. Ils donnent pas du bon vouloir d'eux-mêmes. Je vais vous dire quelque chose, ils sont associables, ces gens-là, tout simplement. Devant la porte de chez nous, on trouve des excréments. On n'a jamais vu ça, madame. On n'a jamais vu ça. J'aimerais bien que la mairie... ils trouvent une solution avant que c'est nous les riverains de trouver une solution. Parce que nous les riverains, la solution qu'on va trouver et risque pas d'être la meilleure.
Didier Paillard, maire de Saint-Denis. C'est une situation que l'on connaît depuis plus de 10 ans, avec la naissance de premiers bidonvilles dans la ville, dont un des grands bidonvilles dit le campement du Hanoul. C'est l'incompréhension complète de ce que font les pouvoirs publics, et on est souvent mis dans les pouvoirs publics. Donc on est aujourd'hui sur un terrain provisoire qui s'appelle le terrain Voltaire, donc qui a été mis à disposition par l'État. Nous avons pu, à travers une fondation, récupérer des Algeco. Et puis nous allons monter une association, une entreprise d'insertion, donc qui permettra de trouver du travail à la population, à une partie de la population rom, pour construire ces habitats modulables et d'essayer de travailler avec eux sur la construction d'un habitat pérenne qui pourrait prendre place dans différents quartiers de la ville pour éviter un effet masse et pouvoir réellement jouer la carte de l'insertion dans la société française et dans un quartier de la ville. Malheureusement, la grande précarité existe aussi pour d'autres que pour les Roms. Alors, on a la forme bidonville, après on a la forme de gens qui dorment devant des boutiques la nuit dans des cartons, on connaît. Hein. Donc on vise un logement intermédiaire pour cette grande précarité, enfin qui soit une étape vers le logement social, mais ce sera un logement social pour les grands précaires. Et enfin, un premier terrain a été trouvé, permettant de reloger, je crois que c'est une dizaine de familles dans la première vague, pour qu'ils prennent place dans la vie locale dionysienne, comme d'autres immigrations l'ont fait à Saint-Denis. Hein. Saint-Denis est une ville où il y a plus de 130 nationalités. Dans toutes les familles dionysiennes, on a tous des mémoires de bidonvilles existants par le passé. Et il n'y a pas de raison que les Roms fassent moins bien que d'autres populations. Moi, ce que je crois, c'est que les gens ne veulent pas revivre ce qu'ils ont pu vivre avant ou connaître avant. Et donc, je crois que c'est surtout ça. On est toujours dans des situations d'urgence avec l'existence de bidonvilles. Et c'est vrai que c'est pas un choix de la ville d'installer des camps roms dans la ville, même bien gérés. Mais c'est vrai que ça se fait dans l'urgence. Voilà. Donc, on n'a pas fait un référendum pour connaître la vie des riverains. Moi, je connais la réponse si j'avais fait un référendum. Donc, la crise n'aide pas. Vous savez, les gens de Saint-Denis sont des gens modestes. Donc, certainement beaucoup plus solidaires qu'ailleurs, mais aussi peuvent être, quand on souffle sur les braises, un peu en repli, un peu parce que les temps sont durs pour tout le monde. Et on n'a pas forcément à avoir envie, en face de soi, d'avoir pire encore. Donc, voilà. Donc, il faut essayer de convaincre. Mais il faut toujours prendre ses responsabilités, donc il faut aussi faire des choses, et c'est dans le faire aussi qu'on avance.
Madame, vous habitez là, dans la maison-là ?
Oui.
Oui. Là où vous faites la vaisselle dehors, en fait ?
Oui, c'est bien, dehors.
Vous vous appelez comment ?
Florie. Moi, je travaille du ferraille. Elle a ferraille, récupère les ferrailles. Frigo, cuisinière, tout. Coupure, micro-ondes, tout.
Les gens, ils jettent tout ça dans la rue? Oui. Et après,
qui est jeté, moi, récupérer tout.
C'est écologique?
Oui, écologique.
Et oui. Après, vous en faites quoi? Vous les revendez à qui?
À Centre du Ferraille.
C'est le ferrailleur. Il y a beaucoup de ferrailleurs ici, entre Aubervilliers, Épinay, Saint-Denis. Parce qu'historiquement, il y avait toute cette activité industrielle, et du coup, il y a une grosse activité de récupération et de centre de tri des métaux.
Et ça me rappelle un souvenir, j'étais avec Micha, un ami, un membre de la Voix des Roms aussi. On allait faire des courses pour une fête qu'on organisait, et avec son camion, il voit un frigo sur le trottoir. Ça a pris 2 minutes. Pour qu'il descende avec son marteau qu'il avait toujours à côté de lui. En 2 minutes, il est descendu, il a démonté le moteur, il a jeté ça dans le camion et est reparti pour acheter la viande hachée. tout se récupère.
Et par exemple, les frigos, les choses comme ça, ça se revend combien ?
La kilo de ferraille. Ouais. Par exemple, la frigo cuisinière, tout ça, 13 centimes.
13 centimes le kilo,
oui,
de ferraille ?
Oui, 13 centimes du kilo. Par jour, 30 euros, 20 euros, un jour rien, un jour un petit plus.
Et vous faisiez ça déjà en Roumanie, quand vous étiez en Roumanie, vous travailliez la ferraille aussi?
Non, la Roumanie, moi, avant, elle a travaillé en boulangerie. Et après, du chômage, c'est pour ça qu'elle est venue ici. C'est bien ici, spécial pour les enfants.
Pour les enfants en particulier, c'est bien?
Oui, pour les enfants. La école, c'est gratuite. Par exemple, ma fille, elle a dit, si maman, moi, elle a fait, elle a grandi, Après, fini de l'école, un juge.
Votre fille, elle vous a dit que plus tard, elle voudrait être juge. Vous savez pourquoi elle veut faire ce métier-là?
Elle a une différence. Par exemple, toi, française, moi, roumain. Elle a l'âge, une différence, un racisme.
Elle a compris les discriminations qu'il y a en France et elle veut combattre ça en étant juge.
Et quand vous êtes arrivée en France, vous êtes arrivée où? Ici, à Saint-Denis?
Ah oui, ici, à Saint-Denis, à la place du Khanoul, oui. Et après, Bourget, non, Samir? Bourget, après, du plein Stade de France, après, Épinay, et après, ici. Yéma!
Eh oui, on part de très loin. On part de très loin et on a encore du chemin.
Alors la Tchodrome à tous, merci. C'était un reportage de Charlotte Perry, Nicolas Lapeyre et Defar Guérid était à la technique aujourd'hui. Lucia Kuhn et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée par Pierre-Yves Bulteau et Solène Cordy attend vos messages sur le répondeur de la base où je suis au 01 56 40 37 37.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 30-25 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Non, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 30-25, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Du 18 au 21 octobre, c'est la fête de l'énergie. Venez faire le plein de conseils auprès de votre espace Info Énergie et réalisez des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur adem.fr ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe.
Quand je travaillais, mon fond d'écran, c'était une île. J'en changeais souvent, histoire de voyager. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillions, je les ai toutes visitées. L'île de Ré, Saint-Barth, La Réunion, ça m'a pris un an. Mais je suis comme ça, moi. Avant d'acheter, j'aime bien tout voir.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 67 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
En ce moment, doublez la prime à la casse. 700 euros offerts pour l'installation d'une chaudière fioul à condensation.
Conditions sur solutionfuel.fr ou au 0800 82 3 fois. Appel gratuit. Contactez votre distributeur EcoFuel avant vos travaux. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et l'Athénée Théâtre Louis Jouvet présentent
Mère, voilà le temps des crimes.
Miss Knife chante Olivier Py du 18 au 27 octobre. L'extravagante Miss Knife revient avec un nouveau spectacle composé et interprété par Olivier Py. Créature de musical, joyeuse et pailletée, perchée sur d'infinis talons aiguilles, Miss Knife chante la vie d'artiste, des espoirs déçus aux amours détraqués. Retrouvez Miss Knife chante Olivier Py dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Un suspect arrêté dans l'enquête sur la mort d'un gendarme hier près de Nice. L'homme vient d'être placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir foncé sur le militaire qui tentait de l'intercepter à bord d'une voiture volée. Pas plus de précision pour le moment. Ouverture cet après-midi à Oslo des négociations de paix en Colombie, un conflit vieux d'un demi-siècle. Les émissaires du gouvernement colombien et de la rébellion marxiste des FARC sont apparus publiquement pour la première fois dans un hôtel au nord de la capitale norvégienne. Ils ont donné ensemble le coup d'envoi des pourparlers de paix. Plusieurs attaques en Syrie. Une puissante explosion vient de retentir près des locaux des renseignements à Damas, tandis qu'un bombardement de l'aviation syrienne a fait 44 morts à Maret, une ville au nord-ouest du pays. Parmi les victimes, les secouristes ont dénombré de nombreux enfants. Depuis 19 mois, 28 à 80 000 personnes ont disparu en Syrie depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad. La reconnaissance par François Hollande du massacre du 17 octobre 1961 continue de susciter de nombreuses réactions à droite comme à gauche. Le Parti socialiste condamne les propos tenus hier par Christian Jacob. Le chef de file des députés UMP à l'Assemblée trouvait intolérable de mettre en cause la police républicaine. Le 17 octobre 1961, une manifestation d'Algériens pour l'indépendance avait été durement réprimée à Paris par la police, conduite par le préfet Maurice Papon. Le projet de loi sur le mariage homosexuel ne sera pas discuté avant fin janvier à l'Assemblée. Le président de la commission des lois qui vient de l'annoncer précise que le Parlement a besoin de temps pour étudier ce texte sereinement. L'UMP Patrick Devedjian et le centriste Henri Plagnol perdent leur poste de député. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler leur élection. Le code électoral n'a pas été respecté car les parlementaires ont choisi des suppléants qui occupaient déjà ce poste auprès de sénateurs. Il va donc falloir revoter dans les deux circonscriptions. La préfecture de Gironde renforce son dispositif contre l'alcoolisation des jeunes. 6 sont morts noyés à Bordeaux dans la Garonne depuis un an. Une brigade nautique va être créée le 1er janvier avec des caméras de surveillance disposées le long du fleuve. Quant aux magasins qui vendent de l'alcool à emporter, ils seront désormais fermés tous les jeudis, vendredis et samedis soirs à partir de 22h. Il a fait les grandes heures de la presse américaine depuis 80 ans. Le magazine américain Newsweek va cesser de paraître, en tout cas sous sa forme papier. Le dernier numéro imprimé sera publié le 31 décembre, après quoi Newsweek ne sera plus disponible que sous format numérique par abonnement sur Internet ou sur tablette.
France Inter, partenaire de la soirée événement avec Michel Legrand, le 4 décembre au Palais des Congrès. Des invités prestigieux, des moments inédits, vivez une soirée exceptionnelle avec Michel Legrand et ses 70 musiciens pour un hommage vibrant au cinéma. Michel Legrand, le 4 décembre au Palais des Congrès à Paris, en partenariat avec France 3. Un événement à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter, là.
Oui, non.
Attends. Si ça continue, ça finira jamais, hein.
Oui, enfin, en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai.
Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Alors ?
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
16h05, très bon après-midi sur France Inter, puisque vous êtes en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Merci et bonjour Delphine Simon.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, il y en a qui sont bien lotis. À Toulouse, par exemple, il y a toujours beaucoup de musique, donc n'oubliez pas, si vous êtes dans la région, le Festival Toulouse Les Orgues nous recommande particulièrement un ensemble vocal a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement, Voces 8, et il sépare vraiment les choses, c'est-à-dire qu'ils vont de certains siècles très anciens jusqu'à Gershwin, parfois, là, ils vont chanter à 20h30 à l'église Musée des Augustins, nous signale-t-on, des œuvres très différentes, de Bird à Jean-Sébastien Bach, en passant par Bond, etc. Et de l'Angleterre aux États-Unis, ce sont des jeunes personnes qui ont vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Donc, Voices 8, on va le dire, puisqu'ils viennent des États-Unis, et il y aura quand même avec eux, pour cette occasion, Régent Poirier du Canada, puisque c'est quand même Toulouse les orgues. Alors, bienvenue à ceux qui veulent aller à ce concert. Et il faut savoir que Toulouse les orgues, c'est dédié à Xavier Darras, grand organiste, qui fut aussi directeur du Conservatoire de Toulouse. Il a disparu il y a 20 ans, donc c'est normal, le festival lui a dédié. Donc je dis bien, samedi, à l'église Musée des Augustins, à 20h30, l'ensemble Voices 8, beaucoup de plaisir, en prévision. Et puis à 22h45, à l'hôtel Crown Plaza, il y aura du jazz, orgamon, batterie, guitare et compagnie, fin de soirée ouverte à tous pour le plaisir de la musique et du jazz. Voilà. Et puis plein de manifestations, mais il faut chercher sur place, évidemment, à Toulouse, il y a tout ce qu'il faut pour se renseigner. Nous avons reçu Patricia Petitbon en début de semaine, c'était formidable, elle est vivante, elle est originale, il faut bien dire, je cherche le mot le plus juste, elle est pleine d'une fantaisie débridée, mais aussi évidemment c'est une très belle artiste, et nous allons entendre encore une fois son disque aujourd'hui. Voici de Handel, George Friedrich, ou Friedrich, puisqu'il avait ce nom anglais depuis qu'il était passé de l'Allemagne, il s'appelait Georg Friedrich, il a été un petit peu blackboulé dans son nom, un peu bousculé. articulé. Et néanmoins, il a écrit une cantate espagnole. Elle date de 1707 et c'est très doux ce qu'on va entendre. Mon cœur ne s'amendera jamais. Toujours, il vous aimera.
Será tan amor.